Moi, je suis au bateau depuis à peu près un an et demi. Alors, je m'intéresse au bateau depuis de nombreuses années, depuis 6 ou 7 ans. Et puis, je voyais de temps en temps dans la presse des nouvelles de ces joyeux rêveurs, là, et je me disais, bon, ça va marcher, ça va pas marcher. Puis, un jour, je me suis pointé à une réunion, il y a un an, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sérieux, beaucoup de savoir-faire, et j'ai été tout à fait emballé. Et donc, j'ai embarqué. J'ai embarqué, voilà.
Alors, on sent déjà que vous utilisez le champ lexical de la mer, d'où le nom d'ailleurs, le bateau ivre. On y reviendra évidemment dessus, parce que c'est aussi une de vos caractéristiques, une de vos marques de fabrique, ce champ lexical en tout cas.
Ah ben, tout à fait. Enfin, le bateau ivre, c'est une vieille appellation de ce lieu. Nous ne l'avons pas inventé, mais on se retrouve complètement bien dans ce bateau ivre. Alors, je vais faire un peu de littérature, puisque vous avez fait de l'histoire. le bateau ivre, c'est un des plus connus poèmes de Rimbaud. Et ce poème de Rimbaud, c'est un poème sur l'aventure extérieure, mais aussi l'aventure intérieure, l'aventure du poète. Et donc, le bateau ivre, au départ d'une aventure comme la nôtre, c'était un cadeau d'hériter de ce nom.
Un nom très poétique, hein, vous l'avez répété. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de cette salle? On le répète, hein, le bateau ivre, c'est une salle de spectacle, de concert, ou comment on pourrait la définir dans sa version ancienne? On verra que, évidemment, elle a été reprise récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cette salle?
Oui, en admettant que je ne suis absolument pas un spécialiste. C'est l'histoire de cette salle. Ça a été beaucoup de choses. Il y a la présidente qui est en face de moi et qui est en train de me souffler de peur que je ne sache absolument pas quoi dire, mais je savais parfaitement qu'il fallait parler du cinéma. Donc en réalité,
d'où le geste.
Oui, voilà. Ça ne veut pas dire que l'arbitre demande l'arbitrage de la vidéo. Ça veut dire que la présidente a peur que j'oublie des choses essentielles. Alors donc. Merci beaucoup, Carole, je t'aime. Bon, on redevient un peu sérieux. Donc, ça a été une salle de spectacle, ça a été une école de cirque, ça a été un cinéma indépendant, ça a été la troisième salle des cinémas studios, avant que du côté de la... De la rue des Ursulines, merci Alain. Avant que du côté de la rue des Ursulines, le local soit assez grand pour qu'on ait vraiment un complexe rassemblé sur un même lieu. Et puis, ça a été. Est-ce que j'ai dit que ça a été une école de cirque pendant un petit moment?
Oui, effectivement, oui, cirque. Oui.
Et puis, Gisèle est arrivée en 80. Là, Carole, en revanche, j'aurais peut-être besoin de toi. 82.
Ben les chiffres, c'est plus facile à faire que de mimer.
On est toujours en langage des signes.
Alors, 1982, c'est l'ancienne propriétaire, c'est ça.
Voilà. Et elle travaille avec tout un réseau de programmation tel que le bateau ivre historique a vu passer des tas de grandes pointures de la variété. Du jazz, du rock. Il y a eu une politique extrêmement intéressante et très vivante du temps de Gisèle. Voilà.
Et de 82 jusqu'à 2010, ça a duré jusqu'à 2010, jusqu'à ce que la salle ferme, en fait, c'est ça?
Oui, voilà.
Pour replacer les choses.
Voilà, c'est ça, oui.
Et alors, un chiffre que j'ai trouvé, en tout cas sur Internet, et vous allez peut-être confirmer si ce chiffre est bon, 200 000 personnes, on estime à peu près ce chiffre-là, des gens qui sont passés pendant cette période de 82 à 2010 dans le bateau ivre.
Alors si je voulais botter en touche, je dirais si c'est écrit dans Internet, c'est que c'est vrai.
Mais en
principe, quand c'est écrit dans Internet, il y a une chance sur deux que ce soit vrai.
Non, en tout cas, ça provenait, pour être plus précis, d'un article de nos confrères de la Nouvelle République.
Ben, faisons confiance à la Nouvelle
République.
On
va leur faire confiance, effectivement.
J'aurais pas su vous donner ce chiffre.
Mais en tout cas, pendant 28 ans, donc ça a duré, si je me trompe pas dans mes calculs, ouais, on reste à peu près, ça va. 28 ans, donc cette période... de spectacle, là, pour le coup, qui était vraiment... c'était une salle consacrée au spectacle.
Voilà, au spectacle vivant et avec... Bon, il y a eu du théâtre, mais la dominante marquée était la musique de l'époque. Hein. Ni musique classique, pas du théâtre, mais beaucoup moins que des concerts, et des concerts de rock, des concerts de jazz, et des artistes de variété.
Est-ce que vous, vous avez connu l'ancienne salle, du coup, avant 2010 ? J'imagine que oui.
Oui, je suis assez vieux pour ça, oui.
Je
n'ai pas de problème.
Je ne me serais pas permis, mais
si j'ai bien vu, vous me regardiez nettement, là. Oui, je suis venu à des concerts souvent, avant 2010, à cette époque-là, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de l'ambiance avant ? Parce que, évidemment, ça devait être... Ça devait être quelque chose de peut-être différent aussi de ce que vous allez instaurer maintenant avec le nouveau projet.
Alors, l'ambiance était celle de gens passionnés qui venaient souvent découvrir des gens parce que c'était souvent des gens qui n'étaient pas depuis très 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 longtemps dans une carrière très développée avec l'enthousiasme J'aime autant répondre à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire est-ce que ça ressemblait à ce que ça va être ? Alors là, la réponse est beaucoup plus claire. Non.
Non. On non. est d'accord.
Non, parce que un des maîtres mots de notre aventure, c'est la variété culturelle. Et on ne veut pas reproduire un schéma qui à l'époque était absolument nécessaire parce que des structures comme par exemple le temps machine n'existait pas. Par conséquent, à l'époque, c'était tout à fait nécessaire. Maintenant, d'une part, ça ne nous paraît pas autant nécessaire, et d'autre part, on est extrêmement attaché à la diversité. C'est probablement pas par hasard que depuis notre tout récent achat du bateau, la première grosse activité se tourne autour d'une solidarité plasticienne. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans un projet de spectacle vivant, d'une salle de spectacle vivant, pas seulement, mais essentiellement, eh bien, voilà, les plasticiens arrivent les premiers pour dire le monde artistique est solidaire et on n'est pas dans des chapelles. On voudrait... Alors, il y a des mots qui sont très difficiles à utiliser parce qu'ils ont été récupérés par la publicité, par le grand commerce. Mais si ça n'avait pas déjà été récupéré, je dirais bien qu'on souhaite que ce soit un lieu de vie. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement des spectacles, mais que ce soit un lieu de rencontre, un lieu de solidarité, un lieu de dialogue, d'échange. C'est pas par hasard qu'au centre du dispositif, il va y avoir un café culturel. Et un café culturel, c'est naturellement pas au sens d'un bistrot où les gens viendront boire un coup. C'est un endroit où, autour du bar, on se rencontrera, on débattra, on verra arriver un chanteur avec sa guitare ou un diseur de poèmes, trois musiciens de jazz qui viendront faire un bœuf, et ça sera un des éléments essentiels de Mais si vous me posez des questions qui ne sont pas exactement liées à l'organisation de la distillation, je suis très ennuyé pour les gens que vous interviewerez après, parce que j'aurais tout dit moins bien qu'ils ne l'auraient dit, mais j'aurais finalement fini par tout dire.
Vous parlez justement de la distillerie, c'est vous qui en êtes à l'origine de ce projet, vous allez nous en parler peut-être plus brièvement, juste pour replacer un peu le contexte pour nos auditeurs, surtout les jeunes auditeurs qui connaissent pas spécialement cette salle, et j'en fais partie d'ailleurs, puisque n'étant pas de Tours à la base, donc je suis peut-être aussi placé, ou en tout cas bien placé pour en parler. La fin de la salle, donc de l'ancienne version, date de 2010. Et vous êtes propriétaire depuis décembre dernier, en fait, c'est ça, officiellement.
Vous voulez dire que ça a été un peu long entre les deux ?
Non, mais alors oui, mais effectivement,
ça l'a été.
Ça l'a été, évidemment. On y reviendra là-dessus. Mais ma question, avant de parler de la distillerie, évidemment, avec vous, c'est de savoir pourquoi, étant donné que ça a été si long aussi, pourquoi pas avoir choisi finalement une autre salle ? Pourquoi pas se dire on laisse tomber le bateau ivre ? Est-ce que c'est ce côté vintage, ce côté ancien qui a fait que vous choisissiez cette salle?
En regardant autour de vous, vous avez un élément de réponse.
C'est vrai.
Il est quand même assez extraordinaire, ce bâtiment, ce bateau. Donc il y avait ça, il a une histoire en plus. Oui. Donc
c'était vraiment essentiel pour vous de la préserver et de ne pas aller voir ailleurs
Notre projet était vraiment centré sur la volonté de faire revivre un lieu mythique. Enfin, on voit, quand on voit le monde que nos différentes propositions peut rassembler, on s'aperçoit que pour les Tourangeaux, c'est vraiment un lieu mythique. Mmh. Et que c'est ce lieu-là qui devait revivre autour de notre aventure.
Vous avez eu des retours, des Tourangeaux qui vous ont dit continuez comme ça.
Tout le temps.
Oui. Faites revivre.
D'abord, on est 1700 sociétaires.
Oui, effectivement. Hein,
c'est quand même un
ça
retour.
Ça fait déjà quelques Tourangeaux.
C'est un retour qui est quand même déjà... Bon, il y a ce retour, il y a le fait que, je crois, l'année dernière, la Nouvelle République a fait une enquête auprès des Tourangeaux pour savoir quel était l'événement de l'année, et c'était la promesse de vente.
À 29%, c'est l'événement qui a marqué l'année 2016.
Voilà. Et puis le quotidien, enfin le nombre de gens qui nous arrêtent et qui nous disent oh, c'est vachement bien ce que vous faites. Faut continuer, faut que ça marche. Oui, c'est vraiment quelque chose qui marche bien quoi dans la tête des gens. C'est quelque chose d'important.
Bon, alors ça, c'était pour la présentation du bateau ivre version ancienne époque, on va dire. On parlera évidemment des projets que vous allez mener, mais évidemment, on a 2 heures d'émission, donc on a le temps. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur la distillerie, avec vous deux, je sais pas, peut-être
ouais,
Alain.
Bah là, d'abord, je vais prendre la parole pour dire qui est à l'origine de cette distillerie, parce que sa modestie lui
gauche,
interdit de se dénoncer. Donc, c'est le dénommé Jean-Marie, qui est là à ma gauche, qui a eu cette idée, donc en avril 2016, je crois. Alors, il n'a pas eu l'idée de la distillerie, Jean-Marie. Il a eu l'idée de la vente aux enchères, de la solidarité avec les plasticiens, étant lui-même plasticien et ayant beaucoup de contacts avec les plasticiens. Donc, voilà. Au départ, on était parti simplement sur une vente aux enchères. Et...
Alors, pardon, je vous coupe. Ouais, ouais. C'est qu'on va peut-être aussi replacer le contexte pour nos auditeurs. Il y a effectivement une vente aux enchères qui aura lieu demain
tout à
15h.
Ouais.
Et les œuvres qui seront mises en vente demain sont déjà en exposition dans la salle du bateau ivre qui a ouvert ses portes, il me semble, à 17h en même temps que
tout à fait,
le début de l'antenne. Pour le moment, je suis bon, je ne me trompe pas. Et peut-être d'abord raconter la distillerie, qu'est-ce que c'est?
Ah oui, ben j'y arrive. Donc, on a commencé. Voilà.
Je vous ai coupé pour rien.
J'ai un petit fil conducteur, faut pas croire. Hein. Okay. J'ai l'air un peu brouillon comme ça, mais je vais m'y retrouver, vous allez voir. Mais vous serez là pour me corriger si je me trompe. Donc, on démarre sur une vente aux enchères, et puis de réunion en réunion, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des spectacles? Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas une semaine avant? Le bateau va être complètement cassé. Est-ce que ça intéresserait pas les Tourangeaux de le revoir une dernière fois? Donc, l'idée a mûri de cette façon-là, c'est étendu. D'une vente aux enchères, on est passé à une ouverture tous les jours pendant une semaine. Et puis, ensuite, on s'est dit, pourquoi pas faire venir des artistes, du spectacle de rue, du spectacle vivant. Et voilà, c'est ce qui s'est fait. Donc, il y a des musiciens, il y a des conteurs, etc., qui sont là, présents, depuis lundi, donc. Donc, de lundi à jeudi, c'était ouvert de 17h à 20h. Aujourd'hui même, c'est toujours ouvert à partir de 17h, donc jusqu'à 21h. Voilà, un petit peu. Et puis la vente aux enchères aura lieu donc demain, de 15h à 18h. Il y a donc 65 œuvres qui ont été données par des plasticiens, donc des photos, des peintures, des sculptures, etc. Que vous dire d'autre? Donc vous parliez des retours que nous avions de la part des Tourangeaux. Moi, je vais vous parler plus particulièrement des retours des plasticiens, puisque j'étais en contact avec eux, dans un premier temps Jean-Marie, puis je l'ai fait ensuite, lorsque j'ai pris le relais. Eh bien, pareil, au niveau des échanges de mails, des encouragements, c'est très bien, j'ai vécu de bons moments au bateau, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre, et je me suis produite au bateau, etc. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose de, visiblement, de très fort à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu. Ben voilà, sur la distillerie, j'ai fait un premier tracé. Donc là, s'il y a des petites questions,
Oui, on fait tourner les stylos, pardon.
Pas de souci.
On vous écoute, hein, on fait deux choses en même temps, on y arrive.
D'accord.
Jean-Marie, vous qui êtes à l'origine de cette distillerie, justement, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment a germé l'idée, tout simplement, en fait, de tout ça?
Elle est, alors que notre action est extrêmement collective, l'idée, elle a été au départ, mais là, je ne l'ai jamais raconté, je crois, à personne, elle est individuelle. J'étais sociétaire. Ma femme était sociétaire. Notre petite fille, on lui avait offert une part en tant que sociétaire. La compagnie de théâtre dont je m'occupe avait acheté 10 parts, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de devenir sociétaire? Et j'ai dit, tu es plasticien. Si tu offrais une ou plusieurs de tes œuvres au profit du bateau, ça serait encore un petit apport financier. Et puis je me suis traité. On a le droit d'être grossier à l'hôtel.
Ouais, avec modération.
Je me suis immédiatement traité de con en disant que j'avais une attitude absolument personnelle et que si j'avais cette idée en tant que plasticien, c'était une idée qui ne me concernait pas moi seulement, mais qui concernait tous les plasticiens. Et j'ai commencé à prendre des contacts avec tous les plasticiens que je connaissais. Ensuite, j'ai essayé d'élargir le cercle des plasticiens à des plasticiens que je ne connaissais pas, mais qui connaissaient les gens qui connaissaient, etc. Et puis voilà.
Et puis voilà. En tout cas, vous avez été léger sur la grossièreté, ça allait, ça passait. C'était correct. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur la vente aux enchères qui aura lieu demain, notamment? Les artistes qui vont exposer, donc c'est certains vous connaissez, Jean-Marie, et d'autres, mais est-ce que ce sont des artistes tourangeaux déjà, ou il y a un peu de tout, un peu
Tourangeaux, ça veut dire de Touraine ou ça veut dire de Tours? Dans votre question.
Ah, c'est une question piège. on va dire de Touraine. Voilà,
pour englober la région. Les artistes sont de Touraine, oui.
D'accord. Alors, effectivement, on va le préciser tout de suite à nos auditeurs. Il y a des peintures, des sculptures. Qu'est-ce que j'oublie encore? Des photos,
oui, effectivement. Une tapisserie.
Une tapisserie.
Alors surtout ne dites pas à la dame qui présente cette tapisserie que c'est une tapissière.
Oui, voilà. Effectivement, il ne faut pas se tromper.
Il y a
dans
un nom que je ne retiens jamais qui est construit autour du mot lisse, comme on parle d'un tapis de haute lisse. Je ne me rappelle plus si c'est lissière, lissomaniaque ou...
En tout cas, ça, cette vente aux enchères, ça sera demain. Demain, oui, c'est ça, 20 janvier à 15h, voilà, exactement. Donc, au bateau ivre, hein, ici même. Voilà.
On peut peut-être rajouter que ça sera présidé par Maître Rouillac.
Effectivement.
Ce qui n'est pas négligeable et ce qui aussi m'amène à profiter du fait d'être à l'antenne pour remercier une fois de plus Maître Rouillac de sa participation, parce que naturellement, comme tout le monde, c'est à titre absolument gracieux que Maître Rouillac préside cette vente.
Effectivement, vous avez raison de le souligner et vous m'ôtez une question de la bouche, puisque elle était prévue par rapport à Maître Rouillac qui viendra donc faire la... qui est le commissaire-priseur, je ne sais même pas comment on dit, qui viendra faire la vente.
Émeric Rouillac, pour être précis, puisqu'il y a également Philippe Rouillac, je crois, son père. Donc voilà, c'est Émeric Rouillac qui fera la vente.
Alors, en revanche, par rapport à ces œuvres, comment est-ce que vous avez eu l'autorisation pour les vendre? Est-ce que c'est les artistes qui vous les ont données en vous disant, OK, vous pouvez les vendre à ma place? Ou comment ça s'est passé?
C'est un don des artistes. Ils ont signé un papier comme quoi ils faisaient don de leur œuvre au bateau sous forme conditionnelle, c'est-à-dire si l'œuvre n'était malheureusement pas vendue aux enchères, elle revient à l'artiste. On n'amasse pas un trésor de guerre, elle revient à l'artiste, mais autrement c'est un don et c'est effectivement le bateau ivre qui vend les œuvres données par les plasticiens.
Vous avez parlé tout à l'heure, dernière petite question après, promis, je vous laisse tranquille. Vous avez parlé du mot sociétaire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la question, puisque dans la nouvelle version du bateau ivre, il y a plus de 1700 sociétaires, c'est ça, 1770 d'ailleurs, si, non? Ah, je me trompe. Ah, je vois, combien alors?
1600. Alors,
autour des 1600, on va dire, ça va, autour des 1600 sociétaires. On va y revenir, évidemment, plus précisément en deuxième partie. Qu'est-ce que vous, ça vous fait d'être, d'être sociétaire à titre personnel du bateau ivre ?
Alors j'ai envie de répondre, de refuser de répondre. Je ne suis pas sociétaire à titre personnel, je suis sociétaire. Et je crois que c'est excessivement important que ce soit pas en notre nom. Bien sûr que je suis propriétaire de la 1/700, on va pas tenir compte de la précision qui nous a été amenée, de la 1/700 part du bateau, c'est-à-dire comme on dit quelquefois en plaisantant, j'ai un accoudoir de strapontin, mais c'est pas très intéressant. Hein, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'aventure est totalement... Oui, il y a la présidente qui est en train de me faire des signes et qui me dit qu'effectivement, c'est pas intéressant du tout. Et qui essaye désespérément de me faire taire. Mais on dirait pas qu'elle me connaît depuis des années. Elle devrait savoir que c'est pas possible de me faire taire.
Bon, en tout cas, c'est vraiment mettre l'ego de côté pour le collectif et pour... Oui. Pour le bateau ivre. En tout cas, merci à vous deux d'être venus nous parler de tout ça, de la vente aux enchères et puis de votre expérience sur le bateau ivre et cette salle mythique de Tours. Nous sommes évidemment de retour dans l'émission Sortez, une émission spéciale aujourd'hui puisque consacrée au bateau ivre qui fait une vente aux enchères demain à 15h samedi 20 janvier. Et nous avons dans le studio improvisé, le studio mobile, Carole, qui est la présidente du collectif, c'est ça, Carole ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
En fait, je suis présidente de la SIC OE, puisque la notion de collectif, elle n'est pas morte. Bien au contraire, je pense qu'elle est même encore plus vivante qu'avant. Mais on n'est plus une association. Le collectif, c'est un peu une appellation générique. On était l'association OE du bateau avant. On est passé à la SIC OE. Donc, on est une coopérative. Ça veut dire aussi nous sommes une entreprise qui comporte donc aujourd'hui à peu près officiellement 1586.
Voilà, d'où la précision tout à l'heure.
Mais en fait, probablement 1600. Et si on recense le nombre de personnes que représentent les personnes morales, en fait, je pense qu'on est à peu près 35 000. Peut-être même 40.
Voilà. D'accord. Ah donc oui, donc ça fait beaucoup de personnes, voilà. En tout cas. Et nous avons aussi Kevin. Bonjour Kevin. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi ?
Alors, moi, je m'appelle Kevin. Je m'occupe principalement de la communication au sein du collectif depuis pas mal de temps. Et je suis aussi, comme Carole, administrateur de la coopérative OE.
Alors, ça tombe bien que vous soyez là parce qu'on va parler un peu histoire aussi, mais chiffres dans une seconde partie. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous parler de ces 7 ans même, entre 2010 et 2017, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans ? Parce que ça a été une longue bataille pour avoir ce bateau ivre, non ?
Ça a été une longue bataille, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un petit peu de temps devant nous ?
Oui, un petit peu.
cinq années bien tassées d'ailleurs, que le collectif s'est formé. Pas mal d'évolutions dans ce qui s'est appelé à l'époque le projet, qu'on n'appelle plus le projet mais une aventure, parce que c'est bien réel, parce que on peut vous accueillir dans le sein même du bateau, dans ce studio improvisé, dans les murs du bateau, donc c'est plus que réel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans? Des illusions, des surprises, des encouragements et puis pas mal d'abnégation et de courage. Pour résumer, parce qu'on va pas faire toutes les étapes, mais on a vu plusieurs municipalités défiler, on a vu pas mal de, comment dirais-je, de montages financiers et de différentes
et des études, ouais,
des études,
des promesses aussi, bien sûr,
des études, comment dirais-je, de formation de société. On a étudié beaucoup de choses, on a été dans différentes directions pour muer finalement en société coopérative pour l'achat officiel du lieu qui a été au mois de décembre.
Ce qu'on peut peut-être dire en fait, c'est que il y a eu deux fois deux étapes. Il y a eu deux fois des souscriptions déjà, puisque la première levée de fonds, elle a eu lieu quasiment tout de suite, c'est-à-dire 2010-2011, avec un niveau qui était à hauteur de 120-130 000 euros, je crois, de mémoire, un petit peu moins.
Un petit peu moins de 130 000 euros, ouais, mais en très peu de temps.
En très peu de temps, d'ailleurs, en général, l'urgence nous réussit. Et puis, il y a eu donc la deuxième souscription en 2016 qui a permis, en fait, d'arriver à l'achat. Donc ça, c'était deux fois une souscription. Il y en aura probablement une troisième dans pas longtemps. Parce que la première intention, c'était de se dire, on va reprendre ce lieu, mais collectivement, avec les citoyens. Et bon, en fait, voilà, effectivement, il y a eu des interventions politiques qui ont fait qu'à un moment donné, on a cru que ça allait se passer autrement. Et puis finalement, on s'est dit non, la meilleure solution, c'est vraiment que ce soit les citoyens, les artistes, les gens du collectif engagés, impliqués et responsables qui essaient de récupérer les fonds et qui vraiment s'engagent complètement dans l'aventure et qui la prennent en main, quoi. Et puis, il y a deux fois une distillation. Pas une distillerie, pas la distillerie, c'est vraiment l'aventure, le collectif qu'on est, c'est le brassage d'idées, d'envie. Mais la distillation, c'est effectivement cette organisation de manifestations, souvent en solidarité avec des artistes et en collaboration avec eux. Il y en a eu une en 2013, qui était en octobre 2013, qui était vraiment la volonté de montrer aux institutions
que ça pouvait marcher.
Que ça pouvait marcher. De quoi on est capable. Et on a eu 4 à 5 000 personnes sur les deux jours. Voilà.
Donc ça a cartonné, hein, on est d'accord.
On peut le dire comme
4 ou 5 000 personnes, j'imagine que.
Et la salle aussi.
Et là, bah, cette semaine, on est déjà à pratiquement 600-700 personnes sur les entresorts et sur les visites depuis dimanche. Donc demain, on espère avoir pas mal de monde, mais je pense que ce soir, c'est bien parti déjà.
C'est vrai parce que c'est ouvert en fait depuis le 13 janvier. Enfin, ça a été ouvert toute la semaine là.
Depuis dimanche. Dimanche, première visite
à 16h, ouais.
Alors, par contre, est-ce qu'on peut revenir aussi sur ces étapes qui ont mené le collectif à investir la salle? Avec qui vous étiez en concurrence déjà pour reprendre ce bateau ivre? J'imagine qu'il y a eu plein de gens qui étaient intéressés par.
Il n'y a pas eu de véritable concurrence déclarée. Ça a été un terrain d'embûche au niveau administratif, c'est tout. Parce que pour mener à bien une telle entreprise, faut passer par moult étapes. Après, on a été bien accompagnés. On a trouvé des seconds avis de valeur avec des architectes, avec un pool de 5 architectes qui ont fait un boulot génial, qui nous ont aidés à monter la phase d'achat. Il n'y a pas eu véritablement un concurrent. On aurait très bien pu imaginer qu'un Vinci, qu'un Bouygues ou autre aurait voulu investir les lieux pour en faire un immeuble d'habitation. C'est ce qui aurait été le plus logique vu le dynamisme immobilier des centres-villes. Donc c'était pour se prémunir de toute façon que le collectif s'était monté, hein, pour mettre sous cloche le lieu et le sauvegarder. Et sauvegarder son exercice culturel surtout.
Il y a eu quelques concurrents, mais assez, je pense, assez fantaisistes. Et puis, c'est peut-être aussi des arguments qui ont été brandis parfois par, les adversaires pour nous dire attention, vous allez peut-être le perdre, en fait. Et pour nous mettre la pression à certains moments de nos démarches, quoi. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu complètement des offres sérieuses. La seule, peut-être, qui a été à peu près sérieuse, ça a été, à un moment donné, un projet du garagiste qui est en face, qui souhaitait s'agrandir. Et ça a peut-être été, effectivement, cette offre-là qui pouvait à un moment donné menacer nos
faire pencher la balance.
Voilà, mais honnêtement, je crois qu'il y a eu pas mal d'intox ou d'envie, mais pas forcément de véritables démarches sérieuses pour aller vers l'achat.
Et vous avez parlé de crédibilité tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu mettre en place et voilà, se rendre crédible auprès des autorités, etc., en tant que collectif?
Oui, je pense que oui. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à parler de crédibilité, en fait. Parce que, pour essayer de revenir sur deux, trois points, finalement, 2013, c'est quand même un peu une étape assez décisive dans la manière dont on peut s'imposer sur la place publique et dont on peut aussi entrer dans le débat politique et politicien, puisqu'on est à quelques mois des échéances municipales et que nécessairement, on a vu plein de listes s'emparer du sujet. Qu'on s'est dit, on verra bien après. On les a tournés un peu tous au tournant. Et le fait est qu'une fois que la municipalité a changé, c'est elle qui est revenue vers nous, et pas qu'elle d'ailleurs. Il y a d'autres institutions, et c'est pas fini, qui continuent un peu à nous faire des appels du pied de temps en temps, nous disant on aimerait bien vous rencontrer, etc. Donc c'est assez flatteur, parce que maintenant c'est eux qui viennent nous chercher. Mais le fait est qu'à ce moment-là, on était nous quand même dans l'expectative, on s'est dit, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose, qu'on sorte un peu de l'ornière dans laquelle on est. Maintenant, on a fait la distillation, on a fait nos preuves. Bon. Donc je pense que déjà, ça a commencé un peu à. On a réussi à s'imposer un peu dans le débat politique, au sens politicien du terme, alors qu'on s'était déjà suffisamment, je pense, imposé dans l'opinion publique. Et aussi, évidemment, au sein du monde artistique et culturel, même si ça n'a pas toujours été simple. L'autre étape, c'est quand on s'est dit, on est dans l'expectative, qu'est-ce qu'on fait? On a fait la distillation, il faut qu'on avance. On s'est. On a réfléchi un peu, et puis comme il y avait des problématiques autour de la construction d'un nouveau cinéma, d'un nouveau complexe à Tournord, on est un peu entré en solidarité avec un mouvement qui était initié notamment par les studios, mais pas que par eux, par un pôle autour de l'image, et on a rédigé avec eux un manifeste pour la diversité culturelle qu'on est allé défendre et promouvoir dans certaines structures, qui d'ailleurs aujourd'hui sont souvent des sociétaires personnes morales. Que ce soit les studios, le théâtre Olympia, etc. Et en fait, ça a permis aussi de nouer des liens avec des structures, enfin de les renforcer même, je dirais. Et donc, je pense qu'on a eu aussi, on a accru notre crédibilité auprès de ces partenaires culturels. Ensuite, l'autre crédibilité, elle est venue du moment où on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à acheter nous-mêmes. Pour ça, on ne va pas rester une association. Il faut qu'on passe à autre chose. On a été accompagné à ce moment-là, donc lors de la transformation entre l'association et la SIC par l'URSCOP. Et donc on a eu en la personne de Sébastien Néraud, que je salue ce soir, vraiment un partenaire et un conseil vraiment très précieux, parce que c'est vraiment lui qui nous a aidés à rédiger les statuts, qui continue à venir animer nos AG, etc. Donc on a eu aussi, je dirais que cette démarche-là pour aller vers l'entrepreneuriat, mais d'une autre manière, ça a certainement permis d'asseoir un peu notre crédibilité auprès de certaines institutions qui, du coup, sont devenues des sociétaires, collectivités locales. On peut citer la région Centre et trois municipalités de l'agglo, quand même. Et je pense que là, ça a quand même... en particulier, quand la région Centre a pris des parts, je pense que ça a quand même fait aussi pencher la balance, quoi qu'on en dise. Et puis, ce qui peut aussi asseoir notre crédibilité, bah justement, c'est que cette souscription de 2016, en 9 février, 9 avril, hein, je crois, quelque chose comme ça.
En 2016,
on récolte 350 000 euros en très peu de temps. Et à ce moment-là, moi, j'ai souvenir d'une réunion qu'on a eue avec la CEMIVIT, enfin avec la présidente de la CEMIVIT, Alexandra Schalke-Petitot, qui est adjointe à la ville, au mois de décembre 2015. On m'a dit, voilà, nous, on va faire un pari, on va lancer une souscription, parce qu'on a déjà tenté, ça avait pas mal fonctionné, on pense qu'on peut y arriver. Elle nous a dit, bah, banco, par contre, vous avez jusqu'au 15 avril. Si au 15 avril, vous n'êtes pas en mesure de faire une proposition, vous ne serez plus prioritaire sur cet achat. C'est-à-dire, en fait, on a eu une espèce de préemption. Ouais. On s'est dit, bah, on y va. Et je pense qu'effectivement, cet ultimatum, ça nous a boosté aussi. Mmh. Et du coup, elle a reconnu elle-même assez rapidement, c'est-à-dire, on arrive au 15 avril, on est en mesure de faire un courrier à la municipalité, de dire, voilà, on va pouvoir faire une proposition d'achat, bah, d'offre. Et le 25 ou 26 juin, on se retrouve à la ville de Tours, au 5e étage, et où elle déclare publiquement, et pas qu'elle d'ailleurs, quelque part, j'avais pas forcément confiance dans ce que vous alliez faire. Je me disais, ils sont un peu, hein, c'est un peu irréaliste leur affaire, mais franchement, vous m'avez bluffé, vous m'avez convaincu. Mmh. Et en plus, tout le dossier que vous avez pu faire avec les architectes, effectivement, et tout le sérieux que vous manifestez autour de la prise en compte, en particulier de certains sujets qui lui tenaient à cœur, comme l'accessibilité handicap, je suis vraiment sensible et complètement effectivement convaincue que votre projet, enfin, c'était encore un projet, va pouvoir se concrétiser. Et je pense que là, enfin voilà, c'est toutes ces étapes qui nous ont fait marquer des points finalement.
Après, moi, je rajouterais une petite chose dans la sphère de la crédibilité, c'est que les collectivités locales qui nous ont suivis, on a fait un gros travail de pédagogie avec elles. Nous sommes une coopérative, on ne cherche pas de la subvention. On veut sortir... Le projet initial, depuis 7 ans, c'est comment reprendre ce satané Rafio pour y faire la fête, pour y voir des choses, pour y créer des choses, sans rentrer dans le schéma classique qui est pourri, qui est plus possible actuellement, de chercher à tout prix de la subvention pour subvenir, pour tenir avec des bouts de ficelle la structure. On a inventé autre chose. On a inventé une coopérative, une société, avec un capital ouvert. Tout le monde peut nous rejoindre tout le temps, les collectivités locales aussi, et on ne cherche pas de la subvention. On cherche à agrandir ce cercle des 1700 sociétaires, en fin de compte. Mmh. La région qui a pris beaucoup de parts sociales a le même poids que le voisin qui est à côté, qui a pris une part sociale, ou moi qui ai pris une part sociale, ou mon beau-frère, ou que sais-je. Et ça, c'est super important, c'est fondateur, et éthiquement, c'est ce qui nous fait vibrer depuis 7 ans dans le collectif. C'est vraiment l'aspect rassembler tout le monde au même titre et puis inventer autre chose que de la recherche de subvention. On va pas embaucher quelqu'un pour remplir à longueur de journée des demandes de subvention. Mais par contre, on peut envisager de chercher toujours et encore à agrandir le cercle des sociétaires.
Mais est-ce que c'est pas justement financièrement risqué de se passer des subventions et de se reposer sur...
Ben non, c'est pas risqué.
Sur ses pas.
Vous savez aussi bien que moi que la sub, il y en aura de moins en moins. Donc tout le monde cherche, moins en moins de monde trouve. Et le résultat des courses, c'est des assos qui arrêtent parce qu'ils n'ont plus de subventions, ils n'ont plus d'argent. Des associations culturelles, mais pas que. Voilà, le monde associatif est en crise, c'est un secret pour personne. Et il faut sortir de ces schémas classiques. Donc on essaie d'inventer. Alors on invente depuis 7 ans au niveau fonctionnement, on invente un projet culturel, on invente une gestion collégiale ou en tout cas une gestion de société coopérative. On invente dans nos relations avec les collectivités locales, on invente au niveau architectural. Cinq archis bossés ensemble, cinq architectes à bosser ensemble, ça s'est jamais vu. L'URSCOP qui nous a accompagnés et nous a regardé avec des grands yeux. Quoi, tu veux créer une coopérative avec 1700 personnes à la fois? C'est du jamais vu. Ouais, mais on va le tenter, puis on va le faire. Et puis ça marche.
Alors justement, vous parlez de l'URSCOP, hein, c'est ça? J'ai peur de faire c'est une ça. Bêtise. L'URSCOP et la SIC, on va y revenir plus précisément pour voir un peu ce que c'est dans le détail. Je vous propose de rester là déjà, puisqu'on va faire une pause musicale, que Mélissa va nous lancer. On revient tout de suite après pour parler de tout ça. C'est parti.
My girl loves cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake,
cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake,
munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
oh cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
a cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake,
a cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake,
my girl, she's big over cheesecake all the time. So I bring her cheesecake and she treats me mighty fine. Da 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 da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
ba da ba da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake,
cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake,
a cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, Louis Armstrong, et pas Louise comme tout à l'heure, j'avais fait une petite erreur, c'est ce qu'on vient d'écouter dans Sortez, et nous sommes évidemment de retour en direct du Bateau Ivre avec Carole et Kevin qui vont nous parler de l'organisation du Bateau Ivre et aussi de ce que va être finalement le nouveau Bateau Ivre avec plein de mots et un vocabulaire un peu spécial, labo, distillerie, etc., un jargon un peu spécifique. Alors du coup, on va peut-être commencer par ce mot SIC qui mérite explication. Carole, peut-être, je me tourne vers vous.
Waouh, alors société coopérative d'intérêt collectif.
Voilà, ça c'est pour les
c'est pour le
sigle.
Et pour le commun du mortel, c'est une coopérative. Tout le monde
tout simplement, comme ça.
Concrètement, ça veut dire que c'est une entreprise. Concrètement, ça veut dire que on a des, donc des sociétaires qui prennent des parts, qui donc à partir de là ont une voix, qui pèse le même poids pour tout le monde, quel que soit le nombre de parts qu'on a pris, qu'ils peuvent resouscrire, enfin reprendre des parts plus tard, que d'autres peuvent en prendre aussi, puisqu'on a vocation à accueillir de plus en plus de sociétaires, parce qu'on a, on est une SAS à capital variable, ça veut dire que notre capital peut augmenter constamment. Voilà. Et que donc, effectivement, ça veut dire aussi que chacun, parce qu'il a pris une part, est, un, est une personne impliquée dans l'histoire, qui a une responsabilité, qui peut apporter des choses quand il veut, qui peut aussi la quitter, si on ne le, on ne le souhaite pas. Mais voilà, il y a une forme aussi de liberté, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi cette forme. On a aussi choisi cette forme juridique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permettait d'accueillir des capitaux qui venaient des collectivités locales. Voilà, et qui n'était pas sous la forme d'un subventionnement, mais plutôt sous la forme d'une participation via des contrats de territoire, en fait, voilà. Pour clarifier pour peut-être un peu les
clarifier. Et alors, pardon, je reviens à ce terme aussi, l'URSCOP, on l'a évoqué, vous l'avez, pardon, évoqué, Kevin, je ne me permettrai pas de vous tutoyer.
Tutoyer, pas de souci.
Bah, parfait. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'URSCOP, qu'est-ce que c'est l'URSCOP?
C'est l'union régionale des SCOP qui est là pour donner un coup de main à toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire autour des coopératives, autour des SCIC, les SIC, comme on l'appelle, et tout cette nouvelle économie sociale et solidaire, ouais, je l'ai déjà dit, voilà.
Voilà, bon, une SIC, enfin une SCOP, c'est généralement des salariés qui reprennent une entreprise, et c'est parce que c'est leur outil de travail. C'est vrai que nous, on n'est pas tout à fait une SCOP, mais un peu quand même, puisque ce qu'on espère pouvoir faire, c'est mettre que cet outil de création, de diffusion, d'invention permanente, de laboratoire permanent, il soit partagé. Donc c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a choisi cette forme, qui avait plein d'avantages, mais notamment celui-là, symboliquement, ça disait des choses aussi.
Alors justement, laboratoire, labo, distillation, distillerie, est-ce que vous pouvez faire une différence entre tous ces termes et nous les expliquer aussi brièvement? On a commencé à en parler avec Jean-Marie et Alain tout à l'heure, mais
alors, ben, juste
préciser.
Justement, parce qu'on parle de Jean-Marie, Jean-Marie a rebondi assez fortement sur Rimbaud, en fait, sur le bateau ivre, puisque c'est le nom du lieu, et on a décidé en Assemblée Générale qu'on le conservait. Et que d'ailleurs, manifestement, les gens, ils sont très, très attachés, donc il n'était pas question de revenir là-dessus. Mais du coup, en fait, c'est vrai que notre collectif a toujours un peu continué à filer la métaphore liée à l'ivresse, liée, parce que c'est un moyen, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est le bateau ivre, le poème de Rimbaud, c'est le récit d'une aventure concrète et d'une aventure intérieure. Parce que Rimbaud, il dit, en fait, je me suis baignée dans le poème de la mer, c'est-à-dire, la poésie, pour moi, est une expérience permanente, est un lieu de risque, est un lieu d'expérimentation, est un lieu... Donc, c'est un laboratoire. Et donc, en fait, la question de l'ivresse renvoie nécessairement à la question de la distillerie, puisqu'on fait de l'alcool via cette opération, enfin, via ce lieu et via l'opération de la distillation. Et donc, on s'est un peu approprié ce jargon-là et ce vocabulaire-là pour dire, bah voilà... la distillerie, c'est nous. Ça infuse régulièrement. On crée parfois donc des distillations. On organise parfois des distillations et
qui sont des événements. En
qui
fait.
Sont des événements, qui sont de toutes sortes. Hein, d'ailleurs, parce que ils seront peut-être pas toujours strictement artistiques et culturels. Et puis, eh ben évidemment, on va travailler. On est quand même assez de plus en plus nombreux. On est peut-être, on a même vocation à être encore plus nombreux. Donc, il faut arriver à se structurer un peu. Et donc, on va travailler en laboratoire. On en a créé d'ailleurs plusieurs au tout début, hein, en 2013, pour la première distillation, on en avait 6, 7, je ne sais plus.
Même plus au cours des 7 ans, même au cours des 7 ans, on se rassemble et on travaille en groupe d'une dizaine, ou un peu moins, ou un peu plus, selon les besoins. Donc il y a eu moult laboratoires différents au cours de l'histoire du collectif.
En tout cas, c'est un champ lexical qui colle vraiment du coup au bateau ivre et à la salle et à l'histoire en tout cas de ce lieu. Est-ce qu'on peut maintenant évoquer finalement ce que va être le nouveau bateau ivre? Parce qu'il y a eu le bateau ivre ancienne version, on va dire, qui est révolu depuis 2010. Maintenant, comment va s'organiser maintenant ce nouveau bateau ivre avec d'autres types d'activités culturelles, j'imagine, et une autre programmation? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous en savez déjà un peu les grandes lignes?
Les grandes lignes, oui. Les petites lignes, non. Et ça, c'est super important, parce que les petites lignes, c'est justement les sociétaires et les gens qui vont nous rejoindre, qui vont les inventer, et on va les inventer ensemble. Carole en a parlé tout à l'heure, quand on a parlé des statuts et de la forme de la société. La coopérative, elle a pour but de rapprocher les artistes, le public, les collectivités locales, les entreprises, etc., etc. Rassembler toute la vie de la cité, si tu veux, un même endroit pour aborder la culture dans son plus large prisme, donc du cinéma, du théâtre, de la musique et plein d'autres choses. Et le but, c'était de vraiment mixer ça et de tout rapprocher. Je me suis perdu. Je voulais.
Donc, puisqu'on voulait rapprocher l'artiste au sens large du public, il fallait trouver effectivement des moyens d'avoir des espaces d'échange, d'où les labos, et d'où le fait qu'on tient à ce que ce lieu soit effectivement un lieu de rencontre et d'invention permanente de ces rencontres entre le monde artistique, qui ne restera donc pas dans son entre-soi, et le public qui pourra venir systématiquement inventer, rencontrer, échanger, via en fait deux types d'espaces. Le café culturel, qui sera un peu le noyau dur, espèce de pierre angulaire en fait du futur bateau, c'est-à-dire
qui n'existait pas à l'époque, on est d'accord.
Alors,
existait sous d'autres formes.
Il existait sous d'autres formes, effectivement, mais il n'existait pas sous cette forme, c'est-à-dire un espace où il y a une espèce de buvette en fait, un bar qui proposera une restauration très légère. On est en train d'ailleurs de réfléchir vraiment aux modalités de ce lieu, de ce point de vue-là. Et puis qui pourra être un lieu à la fois, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de rencontre pour les personnes lambda, mais aussi un lieu où on pourra avoir un mode de diffusion ou un mode d'expression qui sera plus spontané, qui sera peut-être même parfois plus risqué, sous la forme de la scène ouverte, sous la forme de l'intervention spontanée, que ce soit du slam, que ce soit de la musique, quelqu'un qui vient avec une guitare, il y a un espace, il y a un micro, il y a un ampli, pour que quelqu'un puisse venir faire, proposer une chanson ou autre chose, venir faire un petit happening comme ça, un peu comme on le fait cette semaine en fait, dans une certaine mesure. Voilà, donc ça, le café culturel, ce sera un peu le cocon, quoi. Et puis, la salle, elle a vocation à accueillir des manifestations qui sont éventuellement, qui nécessitent des moyens plus développés, avec une jauge qui peut varier de peut-être une centaine de places pour le minimum, jusqu'à 599 en configuration concert debout, ou en tout cas manifestation qui peut se faire debout. Et donc, ça veut dire que, justement, l'identité qui peut être la nôtre, c'est-à-dire défendre la diversité artistique et culturelle, elle va pouvoir s'incarner là-dedans. Ça veut dire aussi que on va pouvoir accueillir à la fois des conférences, des débats. Le café culturel, ça peut être un espace tout à fait approprié pour avoir une agora récurrente. Mais, évidemment, si on a un espace qui peut monter avec une chose à 599, on va pouvoir y faire des choses. Et pourquoi pas, d'ailleurs, des congrès aussi, parce que on a des entreprises dans nos sociétaires, donc on peut aussi être sur ce type de manifestation. Comment ça va se passer ? Tu veux reprendre le relais ?
Ouais. Allez, Kevin.
Faut bien comprendre qu'on est... qu'il y a à peu près 130-140 personnes morales, donc assos, qui sont déjà force de programmation. Donc il y a plein de gens super connus localement, hein, des salles, des assos. Cette salle, elle est, du côté artistique, elle est pour eux. C'est une salle qui manque. C'est une salle qui manquait à Tours. Une jauge de 200, 300, 400 personnes, ça manquait à Tours. Tu disais tout à l'heure le mot chapelle, et c'est ça qu'on veut éviter. On veut un peu casser les chapelles cinéma d'un côté, les chapelles théâtre de l'autre, musique actuelle ici ou musique ancienne là. Le but, c'est que tout le monde se retrouve ici. Et ces 130 assos sont sociétaires et vont louer la salle pour y inventer des choses, pour y programmer des choses,
en fonction
pour
de leur diffuser activité. Des choses.
Et la programmation, le futur bateau, en fait, c'est elle. c'est vraiment cette programmation qui est déjà là sur le papier avec des noms sociétaires, mais ça va être les studios, ça va être l'assaut, ça va être béton, ça va être
tous en scène,
ça va, voilà, j'en oublie 95%, mais voilà, c'est le nouveau bateau, c'est pas une nouvelle salle. Le nouveau bateau, c'est pas une nouvelle entité, une nouvelle programmation avec un nouveau directeur artistique. C'est tout sauf ça, en fin de compte. C'est tout ce qu'il y a là et tout ce qu'on n'arrive pas à diffuser. C'est tout ce qui n'arrive pas à diffuser. C'est tout ce qui est coincé entre la terrasse du Troquet et puis la SMAC ou le Théo. On n'arrive pas à se faire programmer. Voilà, tout simplement, c'est cet espace vide, c'est cet espace qui manque et c'est cet espace qu'on va essayer de combler.
Donc avec une programmation qui sera très éclectique, en tout cas dans le futur. Est-ce qu'on peut brièvement parler de ce nom bateau? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Carole.
Vertu aussi. Hein.
Tu l'as évoqué tout à l'heure, Carole.
Oui, mais c'est Madame la Présidente, on pourrait la...
Madame la Présidente. Votre Altesse, s'il vous plaît. Voilà.
Je préfère, comme d'habitude, alors, comme à la maison.
Non, par contre, vous avez décidément, quand on prend une habitude, tu as parlé tout à l'heure du nom et un nom qui était très très apprécié, en tout cas des Tourangeaux, de vous, etc. Ça a été mis sur le tapis de changer de nom.
Absolument.
Est-ce qu'il y avait des projets déjà? Est-ce qu'il y avait des idées de nom?
Alors, en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour le nom. On s'est posé la question d'ailleurs de est-ce qu'on peut en être complètement bénéficiaire, propriétaire. Qu'en est-il de ce point de vue-là? Bon, il y a d'autres lieux en France et dans le monde qui s'appellent Bateau Ivre.
Ah oui.
Et notamment des lieux dédiés au spectacle vivant ou à la restauration, etc. Donc, d'ailleurs, quelquefois, quand on lance l'idée sur les réseaux sociaux, il y a plein de réponses qui surgissent. Ah, mais moi j'en connais un à tel endroit, etc. Bon, bref. Donc oui, on s'est posé la question et on s'est dit il faut effectivement qu'on soumette, à l'époque on était encore une association, il faut qu'on soumette ça à nos adhérents et qu'on leur demande s'ils veulent changer ou pas. Donc on a fait un sondage et à 75% les gens ont dit on garde Bateau Ivre, donc et même orthographe.
Ouais. D'accord. Voilà, les 75 c'était la même orthographe. 10 de plus, 10% de plus, c'était bateau haut ou des dérivés, on va dire. Il y avait 3 à 4% de propositions autres. Donc voilà, le débat était clos, quoi.
Et alors, en proposition de nom autre que bateau ivre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait et...
Alors là...
ça vous a pas marqué
le... Bah si, après, il y a eu gros lot avec Ohé du bateau.
Ouais.
Il y a eu la déjantée ou...
Ouais, il y a eu...
Pas mal de trucs.
Et du coup, c'est pour ça que la SIC s'appelle Ohé, point d'exclamation, et que le lieu, lui, s'appelle toujours bateau ivre, le bateau ivre, parce qu'on voulait dissocier la coopérative... de l'espace. La coopérative, c'est vraiment les gens, c'est vraiment, voilà, ces forces vives, cette énergie, et puis le lieu, c'est le lieu. Et peut-être qu'un jour, le bateau ivre deviendra autre chose, dans, je sais pas, 200, 300 ans, mais la coop, oui, elle aura peut-être disparu depuis très longtemps, mais en tout cas, le lieu, un enracinement, on voulait le garder.
Et le lieu, il est encore plus large que la coopérative, en fin de compte. Parce que la coopérative, la société, elle est ouverte à des sociétaires, soit. Mais si on n'a pas les ronds pour se payer une part, ben on peut quand même rentrer au bateau, quoi.
Ouais.
C'est tout sauf sectaire, quoi. On veut pas que la coopérative soit source de limites. Si t'es pas sociétaire, tu peux venir poser ta guitare et puis nous jouer un morceau ou venir boire un verre et regarder un slam ou autre chose. Donc le bateau ivre restera le bateau ivre et la coopérative est plus dans l'optique organisationnelle, législatif et